Notre banque a compris
qu'on peut aussi avoir des projets à notre âge.
Des travaux à votre âge ?
Comment ça, à notre âge ?
Mais vous avez vraiment besoin d'aménager le grenier ?
Et nos petits-enfants, ils vont dormir où ?
Ma chérie, ne t'inquiète pas, on est allé voir Eric de la Banque Postale, il nous a dit qu'on pouvait avoir un prêt pour ça. Eh, en parlant de petits-enfants...
Oui, ma chérie, c'est quand tu veux.
À la Banque Postale, nous avons compris qu'avoir des projets n'est pas une question d'âge. Profitez de notre offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux ou projets valables jusqu'au 1er juin 2013. Renseignez-vous en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute.
La Banque Postale.
Banque
et citoyenne.
Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit exclusif du prêteur.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors que les branches reverdissent un peu partout, même si le printemps est un petit peu hésitant cette année, Franck Ferrand a choisi de nous parler sur Europe 1 des arbres. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je suis de retour, voyez, au micro,
on s'est
au
inquiété.
Poste.
Tout va bien.
L'arbre, les arbres sont au cœur de l'histoire, si j'ose dire, et au cœur de nos références. De l'arbre biblique de la connaissance, d'où surgit le serpent tentateur, à l'arbre de Jessé, la généalogie de Jésus, de l'olivier de Platon, qui est conservé, vous savez, à l'université agricole d'Athènes, au chêne sous lequel Saint-Louis rendait la justice, les arbres croulant sous le poids des pendus ont également fait l'histoire, et puis les arbres de la liberté, plantés partout par les révolutionnaires, ce symbole de l'enracinement, de la stabilité, de la protection aussi par ses frondaisons, est omniprésent dans notre culture.
L'historien Alain Corbin vient de publier chez Fayard un ouvrage sous-titré « L'arbre, source d'émotion de l'Antiquité à nos jours ».
Oui, d'émotion. L'ouvrage est intitulé « La douceur de l'ombre » et c'est une source, comment dirais-je, foisonnante, arborescente de références pour évoquer tous les aspects de l'arbre en tous les temps.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce ? Je ne sais pas si les écoliers apprennent toujours ces vers indignés de Ronsard contre les bûcherons de la forêt de Gâtine. Ce qui est certain, c'est que l'amour que le poète y témoigne envers les arbres, bien des Français pourraient s'en réclamer. Il y a un lien spécifique entre la France et les arbres, et même, je dirais, entre nos chefs d'État et les arbres. Nous avons tous à l'esprit plus ou moins les images du général de Gaulle à Colombey ou de François Mitterrand sur le mont Beuvray, cheminant silencieux au milieu de la futaie, en évidente communion avec les arbres. Centenaire, peut-être même millénaire pour certains. Forêt, haute maison des oiseaux bocagers, plus le cerf solitaire et les chevreuils légers ne paîtront sous ton ombre, et ta verte crinière, plus du soleil d'été ne rompra la lumière. Forêt peuplée d'elfes et de sylvains, forêt où l'on chasse, où l'on chante, où l'on fait l'amour, forêt seigneuriales et royales, domaniales ou nationales, forêt avec leurs gardes forestiers, leurs coupes de bois, leurs sentiers de randonnée, à moins que l'on évoque le grand arbre solitaire qui là-bas, en bordure du lac, se couvre chaque soir de hérons filiformes comme un grand candélabre. L'été dernier, j'ai eu la chance, et vraiment c'est inoubliable, de visiter le parc national américain des séquoias géants en Californie. Et j'ai vu là, que dis-je, j'ai pu rencontrer quelques-uns des plus vieux êtres vivants de la planète, 3000, 4000 ans pour ces monstres placides, 4000 ans qu'ils sont là, qu'ils existent, qu'ils respirent et se développent. Il est difficile d'exprimer le sentiment qu'on peut ressentir à se plaquer contre l'écorce douce, élastique de ces gigantesques arbres qui culminent à plus de 80 mètres, à lever les yeux sur ces troncs interminables couleur de cannelle, dont le feuillage tout là-haut est proprement inaccessible. C'est une impression mêlée, paradoxale, d'écrasement et d'élévation tout à la fois, de joie indicible et de sortie du temps. Le temps, parce qu'il y a de cycliques dans leur croissance, et sans doute du fait de leur longévité. Les arbres nous initient précisément à une autre échelle temporelle. Certes, il existe des tortues qui sont là depuis 300 ans et plus, mais l'arbre a quelque chose de plus, et c'est l'immobilité, c'est la fixité, la stabilité, c'est l'enracinement, comme je le disais tout à l'heure. La verticalité de l'arbre s'enfonce profondément dans le sol et peut s'élever haut dans les airs. Elle rattache la terre au ciel, elle favorise la transcendance. Et ce ne sont pas les sorciers, les druides, les chamans, les officiants de tous les cultes en tous les temps qui diront le contraire. Virgile, Ronsard, que j'ai cité déjà, Rousseau, dont nous allons parler dans un instant, Hugo, ont su voir les arbres et les apprivoiser pour nous. Je vous propose de nous glisser maintenant dans leur auguste sillage, et c'est Georges Brassens qui nous ouvre le chemin.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Georges Brassens sur Europe 1 avec Auprès de mon arbre, amoureux des arbres. Restez bien à l'écoute de votre radio.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité, Franck, sur Europe 1, il s'agit d'Alain Corbin. Il est historien des sensibilités, spécialiste du 19e siècle en France et auteur notamment de La douceur de l'ombre, l'arbre source d'émotions de l'Antiquité à nos jours chez Fayard.
Et pour peu qu'on aime l'histoire des mentalités, pour peu qu'on aime la psychologie historique, si je puis dire, évidemment, on n'a pas besoin de présenter Alain Corbin. Merci beaucoup d'être venu. Je racontais tout à l'heure cette expérience récente et ineffable d'entrer en communion avec ces gigantesques séquoias de Californie. On peut faire la même expérience avec des arbres, évidemment moins spectaculaires. C'est quelque chose d'étrange. On pourrait presque parler d'une communication avec l'arbre, Alain Corbin.
Oui, vous avez vécu là une émotion très forte, parmi les plus fortes que l'arbre peut susciter et que bien des romantiques du 19e siècle, qu'ils soient allemands ou français, ont vécu. Et c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est évidemment la profondeur de l'émotion. Parce que les émotions sont innombrables, suscitées par l'arbre. Mais celles que vous avez évoquées sont parmi les plus profondes. La fusion, le désir d'embrasser, de saisir, le transfert d'énergie, le fait de communier, en quelque sorte, avec l'arbre, c'est ce qui est le plus intéressant, ainsi que le fait de l'écouter.
Voilà, c'est ça, écouter l'arbre. Alors ça, c'est une notion qui remonte très loin, à la plus haute antiquité, on peut dire.
Ah oui, le chêne de Dodone.
C'est ça. Hein.
Les Grecs attendaient que les branches, en dehors même de tout vent, puissent présager, et ils écrivaient évidemment ce que l'arbre leur disait.
On sait que l'académie de Platon se réunissait jadis sous un olivier qui était déjà de belle taille, et cet olivier, il semblerait qu'on l'ait identifié en 1931. Il est devenu l'objet en Grèce d'un véritable culte national, jusqu'à ce qu'un automobiliste, un touriste, hein, et c'était un Danois en l'occurrence, entre dans le chêne en 1975, dans l'olivier, il l'a déraciné en partie, et alors l'olivier en question a été sorti de terre et très soigneusement replanté à l'université agricole d'Athènes, où il fait l'objet véritablement aujourd'hui d'une mesure de protection, comme s'il s'agissait du trésor national par excellence.
Hein. Oui, les Grecs avaient toujours préservé les oliviers sacrés. Lysias en avait. Il a même été accusé de les entretenir mal. Mais ce n'est pas le seul arbre de Socrate que vous évoquez, ou de Platon, exactement, mais enfin disons de Socrate. Dans le Phèdre de Platon, Socrate emmène ses disciples en dehors d'Athènes, sur les bords de l'Ilissos, et brutalement, il voit un très très bel arbre, et Socrate s'écrie « Mon Dieu, que cet arbre est magnifique, qu'il sent bon, qu'il sera bien de s'étendre, de nous étendre sur le gazon qui est au pied. » Donc, cette amour, en quelque sorte, de la douceur de l'ombre et de la sidération provoquée par l'arbre remonte à l'Antiquité la plus lointaine.
Évidemment, l'arbre définit à lui seul un paysage. Pour ce qui est de la France, tout ce qui est plutôt au nord de la Loire se réfère au chêne. Tout ce qui est plutôt au sud aurait tendance à se référer effectivement à l'olivier ou au chêne vert. Le cèdre est le symbole du Levant et du Proche-Orient. Le séquoia dont je parlais est le symbole du Nouveau Monde. Finalement, on peut dire que les peuples ont eu tendance à se référer aux arbres quasiment comme à des totems.
Oui, bien sûr. Et là, vous évoquez les essences.
Les essences.
Mais il y a une autre façon, si vous voulez, de répartir les arbres. Moi, en ce qui me concerne, je suis très sensible à l'arbre champêtre, à l'arbre isolé, à l'arbre de l'orée d'un bois, à l'arbre de la haie surtout, puisque je suis originaire d'un bocage. Et ça, l'arbre champêtre dans l'ensemble est fort et suscite des émotions, plus à mon sens que la forêt, parce que la forêt cache l'arbre, c'est bien connu.
Et n'est-ce pas ? C'est l'inverse de ce qu'on dit généralement. J'ai le souvenir d'un documentaire que j'avais vu à la télévision il y a des années sur la déforestation historique. On partait du néolithique et on voyait que à mesure que la population se développait dans les différentes zones de la planète, c'était les forêts qui, les premières, reculaient. Là où il y a l'homme, il n'y a plus d'arbres en quelque sorte. C'est étrange cette lutte de l'homme contre les arbres.
Non, dans les arbres massifs.
Les arbres massifs, bien entendu, oui.
En quelque sorte, mais l'arbre domestique.
Ah oui, voilà.
On n'a pas parlé, a toujours été l'objet d'une attention, en particulier au XVIIe siècle, où on cherchait à l'élever comme on élève un enfant. On cherchait à lui donner une valeur morale, en quelque sorte, et à l'identifier à son propriétaire.
C'est au Moyen-Âge que l'on se méfie des arbres, en quelque sorte. Ils sont censés être porteurs de certains maléfices.
Oui, eh bien, il est évident que la dendrolâtrie, c'est-à-dire le culte des arbres, le culte païen des arbres, était très mal vu de l'Église, et que bien des saints ont...
Il y a quelque chose de païen là-dedans.
On peut lire ça dans la légende dorée. Les saints ont cherché à couper les arbres ou à capter en quelque sorte la vénération, le culte de l'arbre.
À partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'il y a un goût de l'arbre et parce que j'ai cité Ronsard. Est-ce que Ronsard est un des premiers à célébrer les arbres et les forêts et les bois ?
Non, là, Ronsard reprend l'Antiquité. Donc, durant l'Antiquité, il y avait des fanatiques de l'arbre, des gens qui apportaient du vin le matin, qui couchaient même sous l'arbre, tant il aimait l'arbre. On dit qu'Artaxerces aimait à ce point l'arbre qu'il ne pouvait plus s'en séparer et qu'il est mort avec cet arbre.
Alors, on peut dire qu'il y a donc une sorte de renaissance de l'arbre avec la renaissance culturelle, oui. En quelque oui. sorte. Nous y venons dans un instant, nous allons voir ce qu'est devenu l'arbre dans l'imaginaire collectif à l'époque moderne.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Avec une émission aujourd'hui consacrée aux arbres, les arbres sont les témoins vivants de l'histoire, vous l'avez dit Franck.
Et oui, et notre complice Clémentine Portier-Kaltenbach me dit de ne pas oublier Boileau, notamment, qui fit planter le premier marronnier parisien à Auteuil. C'est vrai qu'au XVIIe siècle, on voit arriver toutes sortes d'essences nouvelles, notamment dans les arbres fruitiers, qui envahissent les vergers de France, Alain Corbin.
Oui, comme je le disais... L'arbre fruitier du XVIIe siècle est un arbre fort intéressant. On l'identifie à son propriétaire, c'est-à-dire que casser ses branches, le déraciner, c'est une injure faite au propriétaire. C'est une attaque à son identité. En revanche, le XVIIIe siècle abandonnera cette cette façon, en quelque
sorte. Cette mise en ordre. Oui,
cette mise en ordre, cette façon pédagogique de dresser l'arbre et voudra lui donner beaucoup plus de liberté.
Et le laisser vivre, en quelque sorte.
D'ailleurs, la déclaration des droits de l'arbre et de la plante a précédé en Angleterre la déclaration des droits de l'homme.
Celui qui incarne évidemment cette conception très libre de l'arbre, une conception qui déjà annonce le romantisme, j'allais dire pré-romantique, mais ça laisse entendre que tout ça était écrit à l'avance, c'est bien entendu Jean-Jacques Rousseau. Et j'ai entre les mains un très intéressant petit ouvrage qui vient d'être publié chez Plon. C'est une conversation, figurez-vous, entre Jean-Jacques Rousseau et Jean-Claude Carrière, le célèbre scénariste et dramaturge Jean-Claude Carrière, qui est avec nous en ligne. Bonjour Jean-Claude Carrière.
Et bonjour.
Vous avez, alors on va venir évidemment dans un instant sur le fond même de ce dialogue que vous entretenez à distance avec Jean-Jacques Rousseau, mais vous avez souligné évidemment son rapport immédiat à la nature.
Oui, il a été un des premiers. D'abord, il a été un grand marcheur.
Oui, ça c'est vrai.
Un
oui.
grand promeneur. Il allait à pied de Lyon à Paris, carrément, oui, oui. et puis de Genève à Turin. Il couchait dans des fossés quelquefois et il a été un botaniste. Il a été même un des premiers en France à comprendre l'intérêt des théories de Linné, le botaniste suédois qui proposait de classer le vivant par espèce. Alors, c'est vrai qu'il est le premier qui introduit, comme vous le disiez, après l'arbre classique, bien ordonné dont on a parlé, un arbre plus en liberté, plus sauvage, qui correspond, selon Rousseau, à l'homme sauvage, et qui est précurseur de ce qu'on appellera à l'époque romantique le sentiment de la nature. Il est vraiment un des tout premiers, il est à la charnière. Il a dit souvent que le mot qu'il emploie, c'est extase, quand il se trouve en face de plantes, dans la solitude bien sûr, ou couché sous un arbre, et qu'il observe le mouvement des feuilles. Cet état-là, cette espèce de communion avec la vie végétative est très très rare avant cette époque-là.
Oui, ça va devenir beaucoup plus fréquent au XIXe siècle, mais
oui,
c'est vrai
sûr,
que Rousseau, de ce point de vue, est un précurseur.
Pour se reperdre ensuite.
Alors c'est très très intéressant et amusant à lire, évidemment, votre texte. Vous ne donnez à Rousseau que des propos qu'il a lui-même tenus,
oui,
bien
à
entendu.
À la virgule près. Oui,
à la virgule près. Et alors vous dites qu'il vous irritait, ce Rousseau, vous fascinait depuis longtemps, car vous n'étiez d'accord sur rien, ni sur le théâtre, dites-vous, ni sur les femmes, ni sur l'éducation, la culture, le pouvoir, sur rien.
Sur rien, oui, c'est un personnage en un sens horripilant et de l'autre côté prodigieusement attachant et fascinant. Sur le théâtre, évidemment, il est attaqué au théâtre, je ne pouvais pas être de son avis. Ça, c'est une évidence. Et je lui rappelle dans le livre, d'ailleurs,
Il attaque tous les artifices, finalement, c'est
oui,
ça.
Oui, non, mais lui qui s'opposait à l'ouverture d'un théâtre à Genève, je lui rappelle qu'il y a maintenant plusieurs théâtres à Genève qui marchent très bien et qui font de très belles choses. Parce que je lui apprends un peu ce qui s'est passé après sa disparition, qui d'ailleurs n'est pas totale. Car Rousseau est un personnage étonnant dans la mesure où, étant fils d'ouvrier, autodidacte, ayant tout appris par lui-même, il apporte des idées entièrement nouvelles sur lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. En particulier dans du contrat social, évidemment.
Bien sûr, on est un tout petit peu passé à côté du tricentenaire, quoique il y a eu évidemment un certain nombre d'événements.
J'ai voulu attendre que le tricentenaire sa naissance soit passé pour entamer ce dialogue avec lui. J'ai passé tout l'été dernier avec lui, lisant, relisant son œuvre, prenant des notes, lui posant des questions. Un grand auteur a toujours la réponse quelque part, cachée quelque part. Et puis c'est un écrivain absolument magnifique.
Vous nous vantiez à l'instant son actualité, le caractère extrêmement moderne de ce que pouvait dire Jean-Jacques Rousseau. Et en même temps, tout ça reste largement théorique. On est toujours frappé par le grand nombre de contradictions qu'il y a entre le...
Oui, le personnage est totalement contradictoire. Ouais. Vous parliez de modernité. Je crois que peu de gens savent qu'il a été le premier, à ma connaissance, à dire qu'il ne fallait pas manger de cerises en janvier. C'est-à-dire qu'il fallait manger des fruits et des légumes de saison et locaux, pas venus de loin.
Un écologiste avant l'heure.
Oui, c'est très très étonnant. C'est bien pour ça que pas mal d'écologistes se sont reconnus en lui, se sont rapprochés de lui même, on peut dire, par la pensée et par le geste. Cela dit, cet homme est d'une contradiction telle que un des plus grands écrivains français a passé sa vie avec une femme qui ne savait pas lire. Oui. C'est ce qui est quand même... Cet homme qui n'a aucune formation politique, sinon un stage à l'ambassade de Venise pendant quelques mois...
L'auteur de plusieurs constitutions.
Oui, écrit du contrat social où il invente la notion de souveraineté populaire qui va déclencher toutes les révolutions, accompagner en tout cas toutes les révolutions qui vont suivre. Et enfin, il n'en est pas à une contradiction près. Et d'ailleurs, il le dit, il le revendique. Il s'appelle un énergumène, ce sont les mots qu'il emploie à son sujet, un loup-garou, un hurluberlu. On dirait qu'il a été jeté par le destin comme ça, au hasard. Il est tombé dans ce siècle-là, qui est le siècle des philosophes. Il n'a pas pu s'entendre avec eux, bien entendu. Ces polémiques à l'égard de Voltaire sont restées célèbres. Mais j'ai la joie de lui apprendre que on lit aujourd'hui beaucoup plus Rousseau que Voltaire.
Et finalement, vous vous mettez entre deux, en quelque sorte, et les polémiques, elles sont maintenant avec Jean-Claude Carrière. Conversation avec Jean-Jacques Rousseau, c'est publié chez Plomb. Merci beaucoup, Jean-Claude Carrière.
Merci à vous.
Dans un instant, nous retrouvons nos arbres avec un contemporain de Rousseau, mais un contemporain imaginaire.
Quelques notes sur Europe 1 de rêverie, extrait de Scènes d'enfants composée par Robert Schumann. A tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'histoire.
Europe 1,
le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 au roman de Calvino, Le Baron Perché.
Et oui, ce roman paru en 1957. Le tout jeune Côme Laverse du Rondeau, il a 12 ans, est le héros de ce roman de Calvino. Ce garçon, dès les premières pages, prend une résolution très forte. Il grimpe dans un arbre. En l'occurrence, c'est un chêne vert que l'on appelle aussi une yeuse. Et il décide qu'il n'en descendra plus jamais. Disons que de branche en branche, de cime en cime, il va passer sa vie dans les arbres sans jamais remettre un pied au sol. Belle façon de briser le cours de la vie ordinaire pour suivre une trajectoire tout à fait personnelle, tout à fait originale. Alors précisons-le, ce n'est pas l'amour des arbres qui, au départ, attire le garçon dans son chêne. C'est l'atmosphère irrespirable de sa famille qui l'y a poussé. Ses parents, sa sœur, le précepteur, l'hôte de la maison sont des espèces d'excentriques prisonniers dans leur névrose, pour employer un terme anachronique, puisque l'histoire est censée se dérouler en plein XVIIIe siècle. Eh bien, Côme leur tourne le dos et contre la force de l'habitude, il fait le choix de se connaître et de prendre en main son existence d'homme libre. C'est cette existence au sens plein du terme, existence, qui forme la matière du roman et que résumera l'épitaphe du héros. Côme Laverse du Rondeau, il vécut dans les arbres, aima toujours la terre, monta au ciel. Il est retranché dans ses branchages, ce garçon, et on peut dire qu'il lance un défi à ses parents, à la société, au monde, mais c'est surtout un défi qu'il s'adresse à lui-même pour se prouver peut-être ce dont il est capable et pour donner un sens à sa vie.
Sur Europe 1 du concerto italien de Bach.
Et ça s'imposait. Alors reprenons cette épitaphe. Il vécut dans les arbres. Il faut comprendre une chose fondamentale. L'acte de Côme relève de tout sauf de la folie douce. La règle qu'il s'est fixée est une discipline. Elle va contraindre le grimpeur, si je puis dire, à ne reprendre pied jamais sur la terre ferme. Non seulement l'expérience est sans limite, mais elle est aussi sans exception. Que Côme remette un pied sur le sol, ne serait-ce qu'une fois, et c'est tout le sens de sa démarche qui, d'un coup, s'évanouirait. On ne pourrait plus parler d'une discipline, ce deviendrait un caprice ou une lubie. Tant qu'elle n'est pas enfreinte, la règle que s'est imposée ce garçon constitue pour lui une sorte de libération. Et cela, même si la contrainte est sévère, au point de poser à l'occasion un certain nombre de questions, des questions épineuses. Par exemple, un jour où, poursuivant des pirates, il doit sauter sur le mât de leur embarcation, la question se posait de savoir, nous dit le romancier, si descendant dans une barque, il ne descendait pas à terre, et s'il n'avait pas déjà dérogé à sa loi en sautant sur un arbre qui manquait de racines. Or, le petit grimpeur est tout sauf un prisonnier. Il règne au contraire sans partage sur son étrange domaine. Surtout, il est libre car il est monté dans l'arbre de son plein gré. Contrairement à une colonie espagnole, arboricole, qu'il croise au hasard de ses déplacements d'arbre en arbre, qui est une colonie perchée par nécessité et qui, elle, ne rêve que de redescendre. Côme, lui, vit dans les arbres parce qu'il en a ainsi décidé. Il a poussé la liberté jusqu'à choisir lui-même son mode de vie, insolite mais affranchi. Qui pouvait comprendre cela mieux que Voltaire? On évoquait Rousseau à l'instant. Jadis, lui écrit le philosophe français, parce que Calvino imagine que Voltaire et Côme échangent une correspondance, jadis c'était la nature qui créait les phénomènes vivants, maintenant c'est la raison. contre l'ordre naturel des choses. C'est donc un phénomène culturel, un acte révolutionnaire qu'a créé le citoyen Côme Rondeau, ci-devant Baron Laverse du, libre penseur et correspondant de Diderot. Les critiques littéraires ont voulu voir dans le choix par Calvino de ce contexte pré-révolutionnaire, ils ont voulu voir un simple hommage au grand auteur Ippolito Nievo. Ippolito Nievo avait écrit un roman posthume à peu près un siècle plus tôt qui s'appelait Les Confessions d'un octogénaire et ça aurait été, dit-on, l'inspiration du Baron Perché. À mon avis, ce n'est sûrement pas la seule raison. Le temps des Lumières a été choisi pour sa signification politique. Le personnage de Calvino est une sorte de Rousseau arboricole, si vous voulez, un solitaire passionné par la collectivité. Alors ce Côme Laverse du Rondeau, il vécut dans les arbres, il aima toujours la terre. La retraite de Côme est tout sauf une fuite égoïste, il faut bien le comprendre. Depuis ses branchages, le jeune baron continue d'entretenir avec le monde au sol des liens étroits. Il participe à la vie locale, avec le temps et les années, il va multiplier les relations avec ses concitoyens. Il finira même un jour par recevoir, toujours Perché, Napoléon qui est de passage en route pour Milan. Ce n'est pas un ermite, ce n'est pas un enfant sauvage. Le Perché d'Ombreuse, comme on se met à l'appeler, est un être socialisé. C'est même un philanthrope que sa marginalité ne fait que rapprocher les autres. Et finalement, le retranchement de Côme en marge de la communauté villageoise procède seulement d'une prise de distance salutaire. Cela rappelle le congé de Calvino à l'égard de l'intelligentsia romaine. Il y a là sans doute quelque chose de très autobiographique. Au moment où le baron Perché paraît, en 1957, l'écrivain est en rupture avec le parti communiste italien. Il avait été ébranlé par la récente intervention soviétique à Budapest et à travers l'expérience de son héros, c'est peut-être un peu la sienne qu'Italo Calvino essaie d'analyser. Et puis, après avoir aimé toujours la terre, il monta au ciel. Et ça, c'est le tour de force. Si le héros du roman s'était posé à lui-même un défi, le romancier à travers lui s'en donne un autre. Il maintiendra l'action dans les arbres du début à la fin du livre. Il conservera éveillé, malgré cette contrainte, ou bien grâce à elle, l'attention du lecteur. L'écriture de ce roman relève, disons-le, de l'acrobatie littéraire. Elle consiste à transcender cette énorme contrainte. Le perchage, si je puis dire, offre à l'écrivain une source intéressable d'idées et les mille et un aménagements imaginés par Côme pour améliorer son quotidien rappellent évidemment l'activité de Robinson Crusoe sur son île. Mais alors que pour Daniel Defoe, il s'agissait d'éprouver la nature humaine en confrontant le héros à l'adversité d'un milieu inhospitalier, pour Calvino, l'objectif est plus expérimental. Il s'agit de fournir à l'imagination une matrice capable de renouveler tous les thèmes. À preuve, la relation sentimentale de Côme. Quelle fraîcheur et ingénuité dans les amours forestières de Côme et Violette. « Oh Violette, je ne sais plus, je grimperai je ne sais où ». Tout de mon long, disait Violette à voix basse, et il se sentait comme fou. L'amour était pour elle un exercice héroïque. Le plaisir s'y mêlait à des épreuves de hardiesse, de générosité, d'abnégation, à une entière maîtrise de soi. Leur monde, c'était les arbres les plus enchevêtrés, les plus tortueux, les plus inaccessibles. Alain Corbin se fait l'écho de ses amours arboricoles dans La douceur de l'ombre. Lorsqu'il retrouve la jeune femme qui l'avait tant fasciné lorsqu'ils étaient enfants, écrit-il, ils se livrent à des ébats dans les volutes de feuillage, à une gymnastique amoureuse facilitée par le réseau des branches et des appuis qui surpassent sans doute dans l'imaginaire du temps ceux qui sont alors édictés dans la littérature érotique. Au sein des alcôves aériennes, les amants s'abandonnaient à un concours d'acrobatie qui s'achevait par de nouvelles étreintes. Ils s'aimaient suspendus dans le vide en s'étayant et s'agrippant aux branches. Elles se jetaient sur lui presque au vol. Le roman, écrit Alain Corbin, préfigure l'immense succès qui aujourd'hui est celui des cabanes et des chambres installées dans les arbres et qui sont proposées par nombre de gîtes ruraux, d'hôtels et de clubs de vacances. Revenons au récit pour admettre qu'il est radicalement différent de la plupart des récits. Alors que d'habitude les romanciers brodent des détails imaginaires sur une trame plus ou moins réaliste, Calvino lui fait le contraire. Il renverse la perspective. Ici, c'est le squelette de l'histoire qui est totale fantaisie et la chair littéraire qui ramène constamment le récit dans la réalité. Ça, c'est, je crois, très fort. L'écriture épouse un choix de vie aux limites. C'est une broderie faite sur du néant. C'est en tout cas l'expression qu'emploie l'écrivain in extremis. « Comme ce filet d'encre que je viens de laisser couler, écrit-il page après page, bourré de ratures, de renvois, de pâtés nerveux, de taches, de lacunes. » Ce filet d'encre où s'est réfugié Italo Calvino, comme son cher Côme s'est réfugié dans son chêne vert.
Sur Europe 1 du concerto italien de Bach, on se retrouve juste après ça.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Symbole de l'enracinement, de la stabilité, de la protection, une émission consacrée aux arbres. Et vous êtes très nombreux à réagir, Franck, et sur les réseaux sociaux.
C'est une émission, vous voyez le lapsus. Comme le disait Alain Corbin, c'est une émission qui n'est pas rationnelle. Et alors les messages ne le sont pas non plus. C'est assez. Il y en a dans tous les sens. Alors j'en grappille comme ça quelques-uns. N'oubliez pas l'arbre immortel, le Ginkgo biloba, qui a survécu, nous dit Yves, aux radiations d'Hiroshima. Alors on revient sur les extases de Jean-Jacques Rousseau, sur les définitions des arbres en fonction des pays. Éric nous parle du parc de Janville dans le Vexin français, où l'on trouve plus de 33 espèces d'arbres différentes. Il y a beaucoup de parcs où l'on trouve de nombreuses espèces différentes. C'est Christian qui cite Chateaubriand, les forêts précèdent l'homme, les déserts les suivent. Et puis Brigitte nous dit que pour elle, les plus jolies évocations de l'arbre et de la forêt sont à trouver dans les tableaux du peintre allemand David Caspar Friedrich et dans la musique romantique comme la Damnation de Faust de Berlioz où l'extrait Nature immense est fascinant, nous dit-elle. Et là, on est en plein romantisme. Finalement, l'arbre reste, qu'on le veuille ou non, la propriété des romantiques, Alain Corbin.
Oui, c'est-à-dire que le grand siècle de l'arbre en France s'étend de 1780 à 1860, à tel point que le portrait d'arbre l'emporte dans l'histoire de l'art à ce moment sur le portrait humain.
C'est incroyable.
Ce qui est assez incroyable. On lui accorde une valeur morale. Dans la forêt de Fontainebleau, le chêne, le rageur, par exemple, ça dit bien ce que ça veut dire, est tout à fait un être moral. Michelet, Élisée Reclus reprennent ces schèmes-là. Cela dit, ce qui caractérise le plus les romantiques, c'est l'écoute de l'arbre, la parole de l'arbre. Que dit-il ? Dit-il quelque chose ? Que dit-il ? Et éventuellement le dialogue avec l'arbre, en faire son professeur de sagesse, son mentor. Tout cela a été dit au cours du 19e et du 20e siècle.
Qu'a-t-il à nous raconter, en quelque sorte ? On songe aux arbres de Georges Sand, par exemple.
Oui, les arbres qui sont aussi horrifiques, les arbres des sorcières, qui peuvent dire des horreurs. Mais je pense que le plus fort, ça a été quand même, malgré tout, le désir de fusion, le désir d'identification, le désir d'absorber l'énergie de l'arbre, le besoin finalement de grimper dans l'arbre, de l'embrasser, d'embrasser avec les bras, c'est entouré de ses bras, mais aussi de le baiser. C'est un thème qui revient à plusieurs reprises au cours du 19e et du 20e siècle.
Il y a des auteurs qui reviennent très régulièrement dans votre ouvrage, évidemment Victor Hugo.
Oui.
Qui est à chaque chapitre, on peut dire que Hugo...
Il savait voir l'arbre, nous a dit Peggy, à propos de Hugo. Hey. Cela dit, celui qui je trouve le plus intéressant à titre personnel, c'est Henry David Thoreau, l'Américain. Là, vraiment, son amour de l'arbre... D'ailleurs, il en vient un jour à écrire « Je suis tombé amoureux d'un arbre ».
Mais au sens propre du mot.
Au sens propre du mot. Mais en plus de ça, sa façon de traiter la feuille, l'humus, les leçons que donnent les feuilles mortes à l'homme, sa façon de traiter l'arbre sauvage, l'arbre unique, celui qui a poussé un peu par hasard sur les flancs d'un ravin et qui n'est pas qui produit des pommes ou des fruits sauvages à la creuté particulière, etc. Il y a dans l'œuvre de Sorrow, qui est très 4 ou 5 ouvrages en français,
hein, Walden ou La vie dans les bois.
Oui, c'est pas celui dans lequel il parle le plus de l'arbre. Encore que le jour où il sort tout son mobilier de bois dehors, il le sort pour que ce mobilier de bois retrouve en quelque sorte de la qualité naturelle.
Qu'il revive ce qu'il avait autrefois connu. J'ai retrouvé la phrase que vous citiez. Oui, j'ai senti, écrit Thoreau, j'ai senti ce soir un véritable désir pour un certain arbuste. Une compagne m'a enfin été trouvée. Je suis amoureux d'un jeune chêne. C'est quand même assez extraordinaire.
Ah oui, mais ça résume en quelque sorte les pulsions de Thoreau, non seulement par rapport à l'arbre, mais par rapport à l'ensemble de la nature.
Les romantiques français ont été évidemment très, très frappés par les arbres, mais c'est sans doute dans les pays anglo-saxons qu'on va trouver les plus grands amoureux, en quelque sorte.
Oui,
les Anglais, notamment, ont une
fascination. Ils ont été les premiers, ont été les premiers à vouloir les préserver, à vouloir en faire le symbole de la lignée, de la famille, etc. Mais ce ne sont peut-être pas ceux qui ont été les plus émus. Je pense quand même malgré tout à une romancière anglaise, George Eliot, dans Le Moulin sur la Flosse. En ce qui concerne la réminiscence, la façon dont un arbre, ici c'est un sureau, est capable non seulement de rappeler l'enfance, mais encore de faire que cette enfance soit en quelque sorte présente par un choc mémoratif qui sera celui de Proust. Et quand on sait
la réminiscence proustienne, alors là...
Oui, mais quand on sait que Proust avait lu ce roman et ses pages, ça enlève un petit peu de la nouveauté de ce qu'il nous dit, dans Jean Santeuil surtout, des arbres et de la réminiscence.
Vous savez qu'il y a, à propos de réminiscence, en France, un certain nombre d'arbres qui bénéficient d'un label, qui sont les arbres remarquables. Et bien, dans un instant, nous allons avoir en ligne le président de l'association Arbres, dont le but est justement le recensement, l'étude et la sauvegarde des arbres remarquables.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Il vivait en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron, ce grand chêne fier sur son tronc. Il eut connu des jours filés d'or et de soie, sans ses proches voisins, les pires gens qui soient, des roseaux mal pensants, pas même des bambous, s'amusant à le mettre à bout.
Brassens sur Europe 1 avec le grand chêne.
Quel poète des arbres, Brassens, hein, il est vraiment très présent sur le sujet, Alain Corbin.
Ah oui, c'est merveilleux. J'ai failli d'ailleurs le choisir pour le mettre en exergue.
C'est ça, vraiment. Il aurait fallu presque une exergue musicale à cet ouvrage. Alors nous avons en ligne Georges Fetterman, qui est professeur agrégé de sciences naturelles et président de l'association Arbres, donc, qui détermine les arbres remarquables en France. Bonjour Georges Fetterman.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup de nous répondre. Alors c'est vous qui sélectionnez, qui choisissez, qui protégez ces arbres ?
On essaye avant tout de les inventorier, d'en faire le tour, et dans un deuxième temps de les sauvegarder. À cet effet, on a effectivement inventé, comme vous le disiez, un label Arbre remarquable de France pour renforcer finalement l'histoire de ces arbres, puisque si ces arbres sont encore là, sont parvenus jusqu'à nous, c'est qu'ils ont un lien très fort avec les hommes et que des hommes au cours de l'histoire ont...
Qu'est-ce qui fait qu'un arbre est plus remarquable qu'un autre ? Son histoire, son ancienneté, sa taille, sa rareté ?
Eh ben l'ensemble des critères. Le premier critère, c'est probablement l'âge qui vient en premier. Et puis vient ensuite des dimensions exceptionnelles, mais on se rend compte que l'histoire, le lien avec l'histoire, notamment l'histoire de France, les légendes, est quelque chose de très fort.
Oui, moi, on sait que certains arbres ont été plantés en commémoration de batailles, par exemple. C'est même très fréquent, ça, pour ce qui est des chênes.
Pour des batailles, des événements historiques, il y a les épicéas du roi de Rome pour la naissance Rome. Toutes sortes d'arbres qui célèbrent des événements. Dans le Jura, on a un arbre qui célèbre un mariage à la fois de personnages historiques et de provinces de France.
C'est toujours étonnant d'imaginer que certains arbres ont pu voir passer, j'allais dire François Ier en France, on va avoir du mal, mais enfin quand même, il y a quelques arbres extrêmement anciens. Quels sont les plus anciens ?
Ah oui, ça remonte bien avant François Ier. Hein. On pense que le plus vieil arbre de France aurait aux alentours de 2000 ans, donc ce qui nous amène très très loin en arrière. Mmh. Et puis certains arbres en Bretagne ou en Normandie dépassent largement le millénaire, et donc ils ont vu effectivement défiler toute l'histoire de France, des invasions vikings jusqu'aux chars alliés dans 44.
Oui, c'est assez fascinant, ils sont là imperturbables, enfin plus ou moins imperturbables, car évidemment ils sont menacés par l'urbanisme, par l'agriculture. Quels sont les principaux ennemis des arbres en France ?
Pendant tout un temps, ça a été les hommes et qui ont considéré que ces arbres n'avaient pas d'utilité. Dans ces cas-là, on ne les gardait pas.
Voilà,
l'arbre était utilitaire à la campagne avant tout. Et puis certains sont restés parce que on les a reconnus comme étant importants et on essaye de pérenniser cette idée.
Mais on aimait les uns, on craignait les autres peut-être, hein ?
Oui, il y a ça. Alors aujourd'hui, il faut ajouter la fréquentation qui est un élément qu'il ne faut pas négliger, qui nécessite parfois des petits aménagements autour de l'arbre pour que tout le monde puisse les admirer sans léser les racines, les troncs, le feuillage, etc. Parce que c'est assez tentant, hein. On peut rentrer dans certains arbres, par exemple, à l'intérieur.
Il y a un arbre que vous aimez particulièrement, Georges Fetterman ?
Ah, moi j'ai un faible, et puis c'est devenu un peu le symbole de notre association, un chêne dans le Lot-et-Garonne qui s'appelle le chêne de Tombeuf, dont les mensurations ne paraissent pas exceptionnelles. Et puis c'était le critère que je voulais vous signaler tout à l'heure, le coup de cœur. On a une émotion forte quand on arrive devant cet arbre. Mais il y en a comme ça partout à travers la France. Vous avez parlé de Nohant tout à l'heure.
Oui, bien sûr. Hein.
Il y a quelques temps, là, j'étais dans le jardin de Nohant. Il y a des arbres tout à fait exceptionnels qui mériteraient d'ailleurs le label Arbre Remarquable de France.
Vous parliez de la Normandie, de la Bretagne tout à l'heure. Là, il y a vraiment des arbres inouïs. Hein, vraiment
oui,
très
on a des chênes millénaires. Et surtout les ifs dans les cimetières. C'est peu connu. Mais les ifs atteignent 1500, 1600, 1700 ans pour certains d'entre eux. On est rentré à 30 dans un arbre, 30 adultes de tout format.
En effet.
Dans le tronc creux.
Je cite deux de vos plus récents livres. Arbres extraordinaires de France, c'est aux éditions Dakota, c'est sorti à l'automne dernier. Et puis les 500 plus beaux arbres de France, aux éditions Christine Bonneton. Merci beaucoup Georges Fetterman.
Merci à vous.
Finalement, les Français sont autant attachés à leur patrimoine naturel qu'à certaines églises ou à certains châteaux. On peut dire, Alain Corbin, que des arbres sont des monuments historiques.
Bien sûr. Ils ont vu passer Charlemagne, Jeanne d'Arc, etc. Georges Fetterman, justement, a publié un ouvrage que vous venez de citer, celui des éditions Dakota, Arbres extraordinaires. Ce sont les plus belles photos d'arbres que j'ai vues.
C'est magnifique. Il y a une très belle photo d'arbre, d'ailleurs, sur la couverture de votre propre ouvrage, édité chez Fayard. La douceur de l'ombre, tout est dit. C'est une approche tout en subtilité et tout en subjectivité de cette histoire de l'arbre. L'arbre, source d'émotion de l'Antiquité à nos jours, d'Alain Corbin. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces arbres. Alors, je tiens à signaler, à souligner à quel point aujourd'hui nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Il arrive que nous traitions à peu près la question. Là, vraiment, nous avons fait quelques incursions rapides dans quelques petits chapitres, mais le sujet est beaucoup plus vaste et vous-même abordez bien des aspects que nous n'avons pas eu le temps aujourd'hui de revivre ensemble. Merci Alain Corbin.
Merci.